matin, j'aimerais vous présenter un verset de la Bible qui m'a fait du bien. Et je suis sûr qu'il vous fera aussi du bien. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait réfléchir à ce que je suis, à ce que le Seigneur il a préparé pour moi. Pas spécialement pour moi, mais pour vous aussi, qui avez Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Ce verset, il se trouve dans Jérémie 29, verset 11. C'est un très beau verset. Hein? Voilà ce qu'il nous dit Dieu. Bien sûr, il l'a dit dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël, mais nous sommes le peuple de Dieu aussi. Le peuple céleste de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Jérémie 29, 11. « J'ai formé pour vous des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je vais le relire. « J'ai formé sur vous des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça vous fait pas chaud au cœur de savoir que Dieu, il nous a préparé un avenir de paix. Bien sûr, ce n'est pas la paix d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas de paix. Tout le monde la cherche, mais il n'y a pas de paix. La vraie paix, il viendra lorsque Jésus-Christ il rentre dans le cœur de la personne. Et pas seulement la paix, mais il dit de l'avenir. En tant que chrétiens, nous avons un avenir. Qu'est-ce que disent les enfants? Quel avenir je vais avoir dans 10 ans si ça continue comme ça? J'ai fait mes études, il n'y a pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Quel avenir ils peuvent souhaiter? Mais Dieu, il te dit, j'ai l'avenir pour toi. J'ai de l'avenir pour toi. Et l'avenir que Dieu prépare, ce n'est pas un avenir comme l'avenir qu'on voit arriver pour nos enfants. Et pour nous-mêmes. Et pour nous-mêmes. Mais l'avenir que Dieu donne, c'est un avenir sûr, certain. Pourquoi ? Parce que Dieu ne ment pas lorsqu'il dit quelque chose. Il nous dit, j'ai des projets de paix et de l'avenir pour chacun de nous. Mais est-ce que nous croyons cela? Beaucoup, ils lisent la Bible et ils prennent ce qui lui est agréable. Mais tout ce que dit la Bible est vrai. Et nous devons l'accepter. Et lorsque je pense seulement que Dieu, il a des projets pour moi et il a de l'avenir pour moi, lorsqu'on m'a découvert l'hépatite B, je suis tombé dans les comas 3 fois. Et le docteur m'a dit la 4e fois, c'est terminé. Hein? Mais Dieu, il me dit, j'ai de l'avenir pour toi. On m'a mis en liste d'attente et tout de suite, j'ai trouvé un foie dans un jeune homme. Je ne connais pas ce jeune homme. Mais dans ma foi, je sais que Dieu il a de l'avenir pour moi. J'étais dans le monde. Je m'étais associé avec un non-croyant. Je faisais des choses que Dieu ne voulait pas. Et Dieu il m'a puni. Je reconnais, c'est Dieu qui m'a envoyé cela pour me remettre sur le droit chemin. Il m'a donné un foie. Il m'a remis sur pied, il m'a dit, j'ai des projets pour toi. Et un avenir. Et je crois lorsque Dieu me dit ça. Mon avenir à moi, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ, il va revenir. Et il va me prendre avec lui. Et je vais vivre la vraie vie. Mais il faut le croire. Si vous ne le croyez pas, vous ne vivrez pas les projets de paix. Votre vie ne sera qu'une vie de combats, de guerres. Il n'y a pas d'avenir pour vous. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous allons tous mourir. Mais après la mort, il n'y a plus rien. Mais Dieu, il te dit, j'ai un avenir pour toi. Voilà pourquoi ce verset, c'est quelque chose de fantastique. Mais Dieu, toutes ces choses-là, il nous les donne. Il attend de nous qu'on fasse quelque chose. Quelle est la chose qu'il faut faire? Et le Seigneur, il nous le révèle encore dans la parole. Il nous a dit, si vous regardez dans Josué 3, chapitre 3, il nous a dit, sanctifiez-vous, il dit Josué au peuple, car demain, l'Éternel, il fera des prodiges au milieu de vous. Pourquoi est-ce que le Seigneur, il fait des prodiges? Parce qu'on est sanctifié. Si on n'est pas sanctifié, les prodiges, on ne les verra pas, on n'aura pas un avenir. C'est sanctifié. Ça veut dire quoi, sanctifié? Il vient d'une racine hébraïque qui signifie couper, purifier, nettoyer. Et le Seigneur, il nous le dit plus loin, dans Josué 24. Regardez ce qu'il dit, le Seigneur. Josué 24, c'est là que ça signifie sanctifier. Ça veut dire quoi, sanctifier? Voilà ce que Dieu nous dit. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. C'est ça, c'est sanctifier. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Et il nous a dit plus loin, ôtez donc maintenant les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur. Il y a beaucoup des dieux étrangers, même dans nos maisons, c'est-à-dire sur lesquels on pose notre confiance. Je vous l'ai déjà dit, cette anecdote, un pasteur, il avait une belle télé, mais ses enfants, ils passaient du temps dans la télé, alors il a dit, c'est pas bon qu'il y a ici, c'est un truc où il y a le péché, la publicité, tout ça. Il a dit, je vais m'en débarrasser. Et au culte, il dit, mais chers frères et sœurs, j'ai une télé à vendre, qui c'est qui la veut? Voilà. Il y a beaucoup de dieux étrangers dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos cœurs. C'est sanctifier pour voir les prodiges de Dieu, pour voir la paix de Dieu. Quels sont ces faux dieux? C'est la première chose qu'il dit. Ôtez les faux dieux. C'est-à-dire couper avec le passé. C'est ce qu'on a parlé un peu ce matin dans l'étude biblique. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, lorsqu'on est chrétien, on doit couper avec notre vie passée. À cette époque-là, pendant qu'il écrivait Josué, quels étaient les faux dieux? Il y avait les dieux, je les ai marqués ici, hein, Baal-Gad, c'est les dieux de la prospérité. Il y avait aussi Astarté, que c'est les dieux du plaisir, de la fertilité, de la sexualité, de la belle vie, Astarté. Hein? Ces dieux, on les appelle aujourd'hui, est-ce qu'ils existent aujourd'hui? Ah oui, ils existent aujourd'hui. On appelle ça la modernité. On appelle ça l'hédonisme. Les plaisirs, la bonne vie, la bonne chair. Ils sont toujours là, qui amènent que notre culture, il nous enseigne quoi aujourd'hui? Il dit qu'il faut penser à notre bonheur personnel. Moi d'abord, les autres, laisse-les où ils sont. Et tout ça, il est basé sur la puissance et la connaissance. Ce que le monde aujourd'hui, il aime, c'est avoir des grandes possessions, de belles voitures, de belles femmes, avoir une bonne santé, Mais le reste, il le laisse tomber. Mais ce que Dieu nous demande, c'est exactement le contraire. Vous savez, toutes ces choses-là, elles ne sont pas... Dieu, il n'est pas contre ces choses-là. Mais Dieu, il est contre ceux qui mettent toutes leurs espérances dans ces choses-là. Si on ne pense qu'à ces choses-là, alors là, ça devient un idole. Qu'est-ce que c'est qu'un idole? Tout ce qui prend la place de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui prend la place de Dieu? Sachez que c'est un idole. Et Dieu n'aime pas ça. Donc à chacun de nous de réfléchir. Et il y a un verset dans les psaumes 16 qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que tu désires, ce que ton cœur désire. » Mais il faut faire de l'Éternel tes délices. David, il avait dit, « J'ai vieilli, mais je n'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit, parce que l'Éternel était avec moi. » Et ainsi, dans notre propre vie, on a passé dans l'église de deux enterrements, les gens ils sont passés dans la tristesse, dans la peine, mais qui a pu les consoler? Moi, pas moi, sûrement pas moi, mais les dieux de toute consolation. On a entendu les sœurs, que c'est Dieu qui l'a consolé. Ni la prière de telle personne, ni l'autre. C'est Dieu qui lui a apporté la consolation. Car c'est lui qui console. On a vu vendredi à notre réunion de prière, la consolation de Dieu. Dieu qui intervient en toutes choses. Et il y a aussi, il dit, en Dieu mets ta foi et il te comblera. Mets ta foi en Dieu et il te comblera. Il y a d'abondantes joies devant la face et des délices à sa droite. C'est ces prodiges que Dieu il a en réserve. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'ôter toutes les choses qui retiennent notre attention au lieu de la porter vers Dieu. Comme l'a dit le frère Roland tout à l'heure, il a parlé de cette femme. Ce prophète qui arrive lui dit, fais-moi manger. Il dit, mais j'ai un fils, je n'ai même pas de quoi donner à manger à mon fils. Et toi tu viens, fais-moi manger. Voilà. Cette femme, il l'a fait. Et il est resté de la farine en continuation. Pourquoi? Parce qu'il a fait les choses qu'il faut. Chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est vrai qu'il y a tant de choses qui nous empêchent. Ou la télé, ou le travail, ou je ne sais pas quoi, qui nous empêchent de prendre part pour ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et sachons encore une fois que tout ce qui prend la place de Dieu, c'est un idole. Et Dieu il nous dit, tu veux avoir la paix, tu veux voir des prodiges, tu veux avoir un avenir que moi je t'ai préparé, ôte les dieux étrangers. Ôtons toutes ces choses-là. On cherche la prospérité dans ce monde. On cherche la prospérité. Et c'est vrai que dans le pays dans lequel nous vivons, hein, il y a la prospérité. Et dans des endroits, les gens, ils ont ni eau, ni pain. Ils n'ont rien, quoi. C'est le monde qui cherche cette prospérité. Occupe-toi de ton bonheur, les autres ne t'occupent pas. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous a dit. Nous devons pratiquer et mettre en pratique tout ce que Dieu il nous demande. Les dieux anciens dans l'Ancien Testament, ils apportaient ça. Ils faisaient des sacrifices, des offrandes pour qu'ils apportent la prospérité. Dans les religions du Moyen-Orient, c'est ce qu'ils font les gens. Ils apportent aux moines à manger pour qu'ils puissent avoir, ou ils font des offrandes à Dieu pour qu'ils puissent avoir. Dieu il n'a besoin de rien. Il a dit dans l'Ancien Testament, je m'en fous de vos sabbats, de vos sacrifices, de vos offrandes. J'en ai rien à faire. Ce que je demande, c'est l'obéissance. C'est ça que le Seigneur nous demande. Et si nous obéissons, il nous le dit ce verset, j'ai formé pour toi des projets de paix et j'ai un avenir pour toi. La deuxième chose qu'ils disent, ces faux dieux, ils cherchent, c'est la sécurité. La sécurité. Et l'assurance qu'on va vivre une vie sans problème. D'ailleurs, la société encore d'aujourd'hui, il a fait quoi? Il y a des assurances partout. Pour chaque chose, il y a une assurance, pour qu'on puisse voir l'avenir rose, comme on dit. Mais la seule assurance qu'il y a dans ce monde, c'est celle d'avoir mis notre cœur entre les mains de Dieu. C'est la seule assurance, il n'y en a pas d'autre. Hein? Pourquoi? Parce que la paix, encore une fois, il n'y a que Dieu qui la baigne. À un certain moment, pendant un certain temps, les gens ils vont crier « paix, paix, paix ». Mais il nous est dit dans la parole de Dieu, lorsque les hommes diront « paix et sécurité », qu'une ruine soudaine, il s'abattra ici-bas sur ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu, il va intervenir. La seule sécurité, c'est auprès de Dieu. C'est ça que le Seigneur il nous demande. Et il nous a dit, remets ton sort à l'Éternel, hein, dans les mains du Seigneur, et il agira. Et il agira. Je l'ai dit mercredi à l'étude, mon professeur de théologie, un jour il a dit, il a osé dire, il a dit, moi j'ai pas de problème. Ah! Il dit, comment t'as pas de problème? Tout le monde a des problèmes. Et il a dit, non, j'ai pas de problème. Car quand un problème il arrive, je le remets entre les mains de Dieu. Il se débrouille. C'est lui-même qui m'a dit, apportez-moi tous vos soucis. Vous qui êtes fatigués et chargés, apportez-moi vos soucis. Et je m'occuperai de ces choses-là. Mais une fois qu'on les a mis entre les mains de Dieu, il ne faut plus s'en occuper. Parce que si Dieu s'en occupe, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Et la deuxième condition pour rentrer dans les projets de paix de Dieu et avoir l'avenir, comment on l'a lu? Il nous a dit, ôtez les vêtements souillés. Il faut ôter les vêtements souillés. Les vêtements dans la Bible sont souvent pris comme symbole de notre nature antérieure. De notre nature antérieure. C'est-à-dire que les vêtements, ils manifestent ce que nous sommes. Hein? D'ailleurs, regardez ce qu'il nous est dit dans Luc 15. C'est une parabole que tout le monde connaît, hein? Qu'il parle, c'est la parabole des perdus, parce qu'il n'y a que des choses qui sont perdues, ils ont été cherchés, mais ils ont été retrouvés. Et ici, dans le chapitre 15, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est le fils prodigue. Vous connaissez tous l'histoire de ce fils prodigue. Hein? Il habitait avec son père à un certain moment. Il a dit, j'en ai marre de mon père, je veux vivre ma vie. Il était à l'abri, il était en sécurité. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Il n'avait aucun besoin. Mais à un certain moment, il a manifesté le désir de s'en aller. Donc, en tant que fils, il a dit, papa, je suis ton fils, donne-moi ma part. Et je vais me débrouiller. Et toi aussi, tu te débrouilles. Je t'abandonne. Il est parti avec l'argent, le père lui a donné l'argent, et il a dépensé tout cet argent dans les plaisirs, en faisant participer les autres dans une vie de débauche. Arrivé à un certain moment, comme chacun de nous sait, l'argent, il n'y en a plus. Que faire? Et alors, il ne trouvait pas le travail, il a commencé à s'occuper des cochons, que c'était un métier abominable pour un juif. Il ne faisait que ça. Il mangeait ce que les cochons gardaient. Alors, il est venu en lui-même, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici, là? Chez mon père, Il y a des serviteurs, des esclaves qui mangent à leur faim. Et moi, regarde-moi comment je suis. Et voilà, c'est là qu'il a pris conscience. Regardez, alors il décide de rentrer chez lui. Hein? Regardez à partir du verset 21. Voilà, il a verset 20. C'est ce que j'ai trouvé de bien ici. Verset bien. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. C'est son père qu'il était là et il l'attendait. Le père, il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Aurions-nous fait la même chose si notre fils, notre enfant, il nous aurait joué ce tour-là? Ça m'étonnerait. Ici, c'est encore une image de Dieu, notre Père. Il est rempli de compassion. Il nous connaît. Il a été à sa rencontre et il s'est jeté à son cou. Voilà, et ça, les fils, pour montrer qu'il y a cette repentance. Et il dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Normalement, au jour d'aujourd'hui, il dit, « Papa, pardonne-moi. Hein. J'ai mal agi, tu sais. » Lui, il a dit, « J'ai péché, pas j'ai agi comme mon père, mais j'ai péché contre Dieu. » D'abord contre Dieu. Et ensuite, contre toi. Hein? Mais il a dit, « Je suis pas digne d'être appelé ton fils. » C'est vrai, c'est ce qu'on dit des fois. « Je suis un très grand pécheur, je fais ce péché-là. Je suis pas, Dieu ne va pas me pardonner. » Mais le père a dit à ses serviteurs, « Apportez-moi vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. La première chose qu'il a fait, lorsqu'il y a, voilà pourquoi il dit, ôtez vos vêtements sales. Une fois qu'on a confessé notre péché, une fois qu'on s'est converti, Dieu, il fait exactement la même chose, comme il a fait cet homme. Ôtez les vêtements d'esclaves qu'il avait auparavant. Donne-lui des vêtements purs, des vêtements propres, et tuez les veaux gras. Nous allons nous réjouir. Pourquoi? Parce que mon fils, il n'a jamais perdu les titres des fils. Voilà pourquoi des fois, lorsqu'on prie, il y a des frères et sœurs qui, momentanément, ils se sont éloignés du Seigneur, et ça nous fait mal au cœur. Mais on continue à prier pour eux, parce qu'on sait que si vraiment ils ont sont passés par cette nouvelle naissance, ils sont devenus enfants de Dieu, ils le resteront toujours. C'est ça l'assurance que nous avons en Dieu. Et un jour, ils vont revenir, comme il a fait le fils prodigue. Et quand c'est qu'on revient à Dieu? Quand nous ne pouvons plus rien faire. Et c'est ça que Dieu attend des fois. Il attend que nous soyons au bout, pour que nous puissions voir le seul et unique espoir en Dieu. J'en peux plus, Seigneur, j'ai tapé à toutes les portes, aucune ne s'est ouverte, mon seul espoir, c'est toi. Interviens, je ne sais plus, c'est comme la femme qui avait la perte de sang. Il a dépensé tout l'argent en voyant des médecins. Il a vu Jésus passer, il a dit, si seulement je touche son vêtement, je sais que je vais être guéri. Il y avait plein de monde. Alors il est arrivé, il s'est faufilé. Parce qu'en plus, une perte de sang, à cette époque-là, c'était impur. Donc il ne devait pas être là. Il devait être à l'extérieur. Alors il est arrivé à toucher. Plein de monde il y avait. Jésus, il a dit aux disciples, « Quelqu'un m'a touché. » Et les apôtres, ils disent, « Mais Seigneur, regarde le monde qu'il y a. » Et il a dit, « Non, quelqu'un m'a touché, car une puissance est sortie de moi. » La puissance de Dieu qui voit dans les cœurs des personnes. Et il fait la même chose. Cette femme a été guérie. Mais le courage de cette femme, ce n'est pas d'avoir touché Jésus. C'est que cette femme, Jésus, il a dit, « Qui m'a touché ?» Cette femme, devant tout le monde, il a dit, « C'est moi. » Il a eu l'humilité de se présenter. Et il risquait d'être lapidé. C'est ça que le Seigneur, il attend. Ôtons nos vêtements, répandons-nous, confessons nos péchés. Et il nous est dit dans Ésaïe, regardez ce qu'il nous dit dans Ésaïe. Il dit, Ésaïe chapitre 1, 16-18, « Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. » Efforcez-vous d'agir avec droiture. Assistez l'opprimé et défendez les droits de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit le Seigneur. Je ne vous condamne pas. Venez, discutons ensemble. C'est ça l'amour de Dieu. Il ne nous condamne pas. Ce qu'il attend, ce que nous discutions avec Dieu, nous parlions de ce qui nous concerne, de ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Dans Ézéchiel, il a ce verset qu'il dit, « Je ne souhaite pas votre mort, mais ce que je souhaite, c'est que vous vous repentiez de vos péchés et que vous vivez. » C'est ce que Dieu demande. Et il continue, « Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. » Oui, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Ici, c'est aussi blanc que la neige. Mais vous savez, à cette époque-là, les microscopes n'existaient pas. Mais lorsque Dieu nous purifie nos cœurs, ils sont plus blancs que la neige. Parce que si vous regardez la neige au microscope, elle est sale, la neige. Nous la voyons blanche. Mais elle est sale. Mais lorsque Dieu il intervient, ils seront plus blancs que la neige. Parce que lorsque le sang de Jésus-Christ passe, tout est purifié. Comme je dis toujours, c'est la plus belle, la plus puissante lessive au monde. Il nettoie tout ce que toute autre lessive ne peut pas. Voilà pourquoi c'est très important. Et les chrétiens, nous comme nous sommes exhortés à changer de vêtements. Dépouillez-vous de vos mauvaises œuvres et revêtez-vous des mêmes sentiments de Jésus-Christ. Dépouillez-vous et revêtez-vous. C'est ça que le Seigneur nous demande. Car nous avons été appelés à accomplir la volonté de Dieu. Et ce que nous faisons, comment est-ce qu'on peut être purifié? Comment est-ce qu'on peut laver nos vêtements? Mais le vêtement intérieur. Et il nous a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, en Jean 1, 7. De toute iniquité. Comment est-ce qu'il nous purifie? C'est son sang qui nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Voilà pourquoi les deux choses, si nous voulons participer au projet de paix que Dieu il nous a préparé et à ce bel avenir qu'il a préparé pour tous ceux qui lui font confiance, nous devons ôter les dieux étrangers. Tous ces dieux dans lesquels on met notre confiance, on met tout notre cœur. D'ailleurs, Jésus, il nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Car tu aimeras l'autre et tu vas haïr. Il faut choisir. Et dans les choix, il n'y a pas de choix à faire. Il faut choisir Dieu. Car c'est auprès de lui qu'il y a les projets de paix et l'avenir. Et il nous a dit encore, il a dit, si on ne le fait pas cela, nous ne rentrons pas dans les projets de Dieu et nous n'aurons pas ce bel avenir. Et il nous est dit, si nous ne sommes pas enfants de Dieu, des fois, il y a des gens qui n'appartiennent pas au Seigneur et ils prient. Ils prient qui? Il dit, ah, j'ai pris Dieu. Mais regardez ce qu'il dit le Seigneur. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de vos prières, je ne les entends pas. Dans Ésaïe 1, 13. Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. Je ne veux plus de ce rassemblement de culte. Des gens qui disent, je vais à l'église. Voilà, je viens à l'église le dimanche. Voilà, j'ai fait la volonté de Dieu. Cessez m'apporter d'inutiles offrandes. Je ne veux plus de ce rassemblement. Ce que Dieu cherche, c'est des gens qui se sont tournés vers lui, qui lui font confiance entièrement et qui suivent ce que le Seigneur dit. Il ne cherche pas des gens qui fréquentent l'église, des gens qui donnent de l'argent. Mais il veut des gens qui font la volonté de Dieu. Et il continue, Il dit, dans Apocalypse 21, 27, il dit, « Rien d'essuyé n'entrera dans la présence de Dieu. » La Bible nous dit qu'après la mort, il vient le jugement. N'attendez pas de... comme beaucoup, ils croient qu'il va y avoir encore une nouvelle vie, la réincarnation. Après la mort, c'est le jugement. C'est ce que Dieu nous dit. Après la mort, il n'y a pas le purgatoire, comme certaines personnes ils nous disent. Vis ta vie tranquille, sois un bon chrétien. S'il y a encore quelques péchés dans ta vie, tu vas aller dans cet endroit, le purgatoire, tu vas souffrir quelque temps. Tes parents, tes amis qui ont un peu d'argent, ils vont payer des messes, des prières. Et passé un certain temps, tu vas ressortir et tu vas monter au ciel. Ça n'existe pas dans la parole. Ça n'existe pas dans la parole. Car les choix, nous devons les faire lorsque nous sommes vivants. Quand on meurt, c'est terminé. C'est terminé. Voilà pourquoi il dit, rien d'essuyé n'entrera dans la présence de Dieu. Et aussi dans Hébreux 12, il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La sanctification, sans la coupure, sans la purification, personne ne verra Dieu. Si on n'ôte pas nos anciennes idoles de nos maisons, de notre vie, si on n'a pas ôté nos vêtements sales, nous ne rentrerons jamais dans le projet de paix de Dieu et dans l'avenir de Dieu. Notre seul avenir sera de passer l'éternité loin de Dieu dans un lieu de souffrance qui s'appelle enfer. C'est ça qu'il faut avoir. C'est ça que le Seigneur nous dit. Et comme il a dit Josué au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Bientôt le Seigneur Jésus, il va revenir. Et nous a dit dans le verset, je crois que c'est Amos qui nous a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Des fois, lorsqu'on rencontre notre fiancé, ou je ne sais pas, un président, on se pomponne, Je vais être bien là. Mais Dieu le dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer Dieu? Il dit, mais je suis jeune, j'ai encore des années. Mais non, tout dépend de Dieu, ta vie. L'autre jour, il y a eu un tennisman qui est décédé. Une crise cardiaque, il a 21 ans. En pleine santé, parce qu'avant de participer au tournoi, visite médicale et tout. 21 ans, crise cardiaque. Prépare-toi. Sommes-nous prêts? Vous savez, beaucoup aujourd'hui parlent de christianisme, et ça va être ma conclusion. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? J'écris ici, il y a quatre verbes. Premièrement, c'est admettre. Admettre quoi? Admettre que je suis pécheur. Admettre que je ne mérite que le châtiment, que le jugement de Dieu, à cause de mes péchés. Et ne venez pas me dire que vous n'avez pas péché, car c'est impossible. Quelqu'un dit, je n'ai pas péché. Alors je lui dis, tu es heureux, parce que tu ne vas pas mourir. Parce que la Bible elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'as pas des péchés, tu ne vas pas mourir. Ah non, je vais mourir aussi. Ben alors, c'est que tu es péché, tu es pécheur. Admettre, reconnaître. Et c'est ça qui est le plus dur, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit ça aux gens, on dit, mais tu es pécheur, tu as besoin du pardon de Dieu. Oh, je ne suis pas pécheur, je ne suis pas plus pécheur que Roland. Voilà. On se compare les uns les autres. Mais la seule personne avec qui nous devons nous comparer, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est le seul qui a pu dire, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis ça à ma femme, elle me dira, ah oui, oui. Je dis moi comme votre mari ou votre femme. Hein? Elle dit, ah mais je suis bien. Parlez-en. Si les femmes ou les maris auraient leur mot dit, encore Dieu, encore plus. Deuxième mot, c'est soumettre. Admettre, c'est soumettre. C'est soumettre à quoi? À la volonté de Dieu. À ce que Dieu dit. Oui, mais Dieu, il dit des choses qu'aujourd'hui ne sont pas valables. C'est faux. Ce que Dieu, il a dit il y a 2000 ans, c'est toujours pour aujourd'hui. La Bible, il a écrit tant de milliers d'années, mais c'est est valable aujourd'hui. Il n'y a rien de changé. Pourquoi? Parce que s'il y aurait quelque chose à changer, on ne devrait plus avoir confiance en Dieu. Un Dieu qui change. Vous imaginez? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je me présente, ah non, non, c'est fini, j'ai changé d'avis. Non, Dieu ne change pas. Dieu n'est pas menteur comme nous le sommes. Car moi, je suis menteur. Vous êtes des menteurs. Mais Dieu, jamais. Il est Dieu. C'est soumettre à tout ce que Dieu dit. Là, pas ce que moi je vous dis, je suis comme vous. Hein. Mais à ce que Dieu dit dans la parole. Et comme je dis toujours, vous pouvez entendre le plus grand homme qui peut exister, avec une grande sagesse. Et il vous dit, ne fais pas ça. Regarde ce que Dieu t'a dit. Et si Dieu te dit le contraire, tu te tournes vers ce monsieur et tu lui dis, tu es un menteur. Parce que il faut croire Dieu, pas les hommes. Vous ne prêcherez plus dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont dit ça aux disciples. Et Pierre, il a dit, mais à qui faut-il obéir? À toi ou à Dieu? Sache qu'en sortant d'ici, nous allons prêcher l'Évangile. Ils ont été fouettés, ils ont été maltraités, et lorsqu'on les a relâchés, ils étaient dans la joie. Allez comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la paix de Dieu à l'intérieur. Deuxième verbe, c'est admettre. Troisième verbe, c'est sans remettre. C'est mettre entièrement entre les mains de Dieu. Comme un enfant, il se met entre les mains des papas ou des mamans. L'enfant, il ne peut rien faire, n'est-ce pas? Il a faim. Papa, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il fait, papa ou maman? Il lui donne à manger. Et il est tranquille, il ne fait rien. Dieu il fait exactement la même chose si nous faisons les choses que Dieu nous dit. Et quatrième mot, c'est transmettre. Transmettre. Transmettre ce que Dieu il a fait pour nous. Transmettre ce que Dieu a préparé pour le monde. Celui qui avait été sauvé par Jésus, il avait été guéri. Il a dit, c'est bon d'être avec toi, Jésus. Permets-moi de rester avec toi. Et Jésus, il a dit, non, rentre chez toi. Et tu dis tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est ça, ce que le Seigneur demande à chacun de nous. Premièrement, c'est d'admettre que nous sommes des pécheurs. Deuxièmement, c'est remettre entre les mains de Dieu. Troisièmement, remettre notre vie entière, dépendance totale de Dieu. Nous devons mettre de côté notre propre pensée, nos propres sentiments et laisser nous guider entièrement par Dieu. Et quatrième verbe, c'est transmettre. Ce que le Seigneur il a fait pour moi, il est prêt à le faire pour vous. Et si vous le faites, si nous le faisons, Dieu, comme il est dit dans les versets, qu'il est dit clair, j'ai formé sur vous des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voulez-vous vivre toutes ces choses? Tournez-vous vers le Seigneur. Amen.